Déclaration d'Aigoual. La forêt du massif de l'Aigoual est une forêt dans les nuages, qui par beau temps regarde la mer ou l'océan, et par temps brumeux, ceux qui s'y aventurent. Comme les feux d'artifice du 14 juillet, que l'on voit par dizaines depuis là-haut, les déclarations que vous allez entendre témoignent, comme une fête, des liens différents et pétillants que des hommes, des femmes et des enfants nourrissent pour cette forêt. Aventurons-nous à déclarer la forêt d'Aigoual comme on pourrait le faire d'un nouveau-né, puisqu'elle est très jeune, autour de 120 ans, et qu'elle a été baptisée forêt d'exception il y a peu. Au cœur du parc national des Cévennes qui veille sur elle, nous allons partager avec vous son histoire exemplaire et un état de ses lieux sylvestres. Nous verrons la façon dont elle est appréciée du public, étudiée aussi, notamment par l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, et enfin entretenue. C'est l'Office national des forêts qui s'en charge en grande partie. Nous allons entendre des paroles de contemplation vibrantes, s'incarnant parfois en actes artistiques, comme pour les balcons de l'Aigoual, ce parcours d'art dans le paysage. Seront évoquées aussi des visions d'avenir face aux défis climatiques. Je suis Clémentine Magiera et je vis en lisière admirative de cette forêt. J'ai recueilli à votre intention pour la filature du Mazel, tiers-lieu culturel en vallée de Valerogue, commanditaire de ce projet, les témoignages dont vous allez écouter des extraits. Ces déclarations d'Aigoual se ramifient en plusieurs branches. Déclaration de naissance et d'alliance, déclaration de panacée publique, déclaration au martelloscope, déclaration de revenus des revenants, déclaration de changement de domicile vivant. Et enfin, déclaration d'art et d'amour. Déclarons ensemble la forêt ouverte, ouverte aux expériences, aux connaissances et aux rêveries. Branche 4, déclaration de revenus des revenants.
Pour l'Aigoual, ce qui est beau, c'est qu'on est responsable du pire et du meilleur. On est responsable de la déforestation qui a eu lieu au 18e et du reboisement qui a suivi fin 19e, début 20e. Moi, c'est cette histoire-là, en fait, qui me porte parce que je reprends, grâce à cette histoire de cette forêt de l'Aigoual, quand je me la remets en mémoire, je reprends espoir sur l'humanité. C'est-à-dire, je me dis, on est capable du meilleur. On est capable de réparer et ça marche.
Si on parle des enjeux de production, mais on est sur des forêts qui sont d'altitude, qui peuvent avoir localement des sols intéressants, il y a des versants nord. On est sur des forêts qui sont relativement productives, on va dire, par rapport aux forêts moyennes de Lozère. Voilà, on n'est pas dans les vallées cévenoles, sur le schiste, ou dans les forêts méditerranéennes autour d'Alès, quoi. Donc il y a du bois qui sort de ces forêts, et ben ça contribue à l'alimentation de la filière bois locale. Tout le monde est bien content d'avoir du bois pour se chauffer, du bois matériau pour faire de la menuiserie, de la charpente. Donc tout ça, c'est voilà, la contribution de cette forêt au niveau économique local en termes de filière bois, elle est aussi importante. Mais avec les propriétaires forestiers et les gestionnaires forestiers, dont l'ONF, on travaille en amont des coupes et en amont de l'élaboration des documents de gestion. Alors les forêts publiques doivent tout avoir un document de gestion en France. Les forêts privées doivent avoir un document de gestion si elles font plus de 20 hectares. Donc voilà, il y a tout un tas de forêts qui font l'objet d'un document de gestion dans lequel, sur une durée de 10 à 20 ans, en règle générale, sont planifiées toutes les opérations dans la forêt, et notamment toutes les coupes. Et donc nous, c'est à ce moment-là qu'on a un rôle important à avoir. Parce que déjà, ces documents de gestion dans le cœur du parc, on a un avis à donner dessus. Un avis officiel, on va dire, formel. Et en amont de ces documents de gestion, en amont de ces avis, c'est pareil. Plutôt que de dire, bah, on va appliquer la réglementation, on essaye de travailler en amont avec l'ONF, avec les propriétaires, avec les gestionnaires, pour recenser les enjeux. Et ben, on va faire un diagnostic en fait écologique et patrimonial sur ces forêts pour voir voilà, quelles sont les espèces présentes, quels sont les habitats rares, quels sont les habitats patrimoniaux, est-ce qu'il y a des enjeux paysagers, est-ce qu'il y a des enjeux sociaux particuliers, etc. Culturels aussi en termes de patrimoine, des murets, des ruines, des choses comme ça. Et donc on va porter à connaissance du propriétaire ou du gestionnaire ces enjeux, avec les recommandations qui vont avec. Et donc c'est en discutant après, déjà en informant le propriétaire de la présence de ces enjeux, généralement les propriétaires et gestionnaires ils y sont sensibles déjà, donc il n'y a pas forcément besoin de trop discuter. Et après sur les points où les enjeux, la protection des enjeux pourrait venir un peu en contradiction avec des objectifs économiques, là, à ce moment-là, il y a une discussion du parc avec ce propriétaire ou le gestionnaire pour voir quelles sont les orientations, les recommandations qui peuvent être mises en œuvre pour les préserver au mieux. Donc voilà, il y a un grand travail d'information, de recommandation, puis de dialogue derrière pour définir des modes de gestion qui soient durables aux trois sens du terme, quoi. Écologique, économique et social. Voilà, ça c'est un peu nos principaux moyens d'action sur la forêt. On a aussi le moyen d'action un peu qui est valable dans tous les domaines, c'est la communication. Encore une fois, voilà, on participe à des événements grand public ou à destination des professionnels ou des propriétaires ou des élus pour un peu les sensibiliser à l'importance des forêts, aux enjeux qui sont derrière. Et c'est toujours intéressant, alors c'est moins le cas sur la forêt de l'Aigoual, mais de se dire que dans les Cévennes où à l'échelle du parc, tout le parc national, on a 70% de forêt, mais on n'a pas une culture forestière sur le territoire, parce que cette forêt, elle est récente, en fait, du point de vue à l'échelle de la forêt, à l'échelle temporelle de la forêt, qui est celle de plusieurs siècles et pas celle des humains. Voilà, en 1850, il y avait 15% de forêt sur le territoire du parc national des Cévennes. Aujourd'hui, on est à 70%, donc voilà, la très grande 80% des forêts aujourd'hui ont moins de 150-200 ans, ce qui est donc jeune pour une forêt. L'Aigoual fait partie des plus anciennes jeunes forêts. Il y a des coins qui étaient préservés sur l'Aigoual, donc il y a des patchs comme ça de ce qu'on appelle des forêts anciennes, mais c'est vrai que la majorité de la forêt de l'Aigoual date fin du 19e, début du 20e siècle. Des forêts qui peuvent commencer à être matures et la fin de la première génération, voire le début de la deuxième ou troisième selon les espèces. De plus en plus de propriétaires gestionnaires se tournent vers ce qu'on appelle la sylviculture mélangée à couvert continu. C'est-à-dire, plutôt que d'arriver quand les arbres font tous 60-70 de diamètre, je coupe tout, je replante, je repars à zéro, et bien de prélever tout doucement, prélever on va dire entre 15 et 25% des arbres tous les 5 à 10 ans, on va dire, selon le peuplement. Voilà, et de jamais passer par ce stade de coupe rase. Et ça, ça a le mérite de garder le couvert et l'ambiance forestière. On sait que sous les arbres, il y a plusieurs degrés de moins qu'en plein découvert, notamment en plein été, période de sécheresse le plus sensible, où il peut y avoir des différences qui vont de plus de 10 degrés. Ça, il y a des chercheurs aussi qui travaillent sur ça, sur caractériser le microclimat forestier, ils se rendent compte qu'il y a des différences de température énormes. Par contre, c'est vrai que ça rend la sylviculture plus compliquée. Donc là-dessus, il n'y a pas forcément consensus, parce que quand on a des mélanges d'espèces, des arbres de différentes tailles, des prélèvements qui ne doivent pas être trop importants, forcément, ça affecte la rentabilité économique à court terme de la forêt. Il y a des cas qui montrent que ce type de sylviculture, à long terme, peuvent être tout à fait rentables, produire des super bois de qualité, etc., et être très rentables économiquement. Et puis, on a l'avantage de jamais passer par le stade zéro, donc il y a des revenus qui sont moindres, mais réguliers, alors que dans les systèmes classiques, on a des revenus qui sont très importants d'un coup, puis après, on n'a plus rien, voire ça coûte de l'argent pendant quelques décennies. Mais bon, ça, voilà, le fait que ça fait changer un peu la culture, les modes de gestion un peu traditionnels, fait que c'est un peu plus compliqué à mettre en œuvre. Donc il n'y a pas toujours consensus.
Actuellement, on est encore en train de récolter des arbres qui ont été plantés à l'époque de Fabre et de Flahault. À l'échelon d'une forêt, la vie d'un arbre, c'est très court. Et c'est ça notre problème vis-à-vis du public, c'est qu'on est à une époque où on est dans l'instant. On veut quelque chose, c'est tout de suite. C'est pas demain, c'est tout de suite. La forêt, c'est à l'échelle des siècles. Je dis bien des siècles. Et il y a une formule d'ailleurs... Le forestier récolte ce qu'il n'a pas semé et il sème ce qu'il ne récoltera pas. Moralité, rien que sur les Gouales, un arbre va être maintenu au maximum 150 ans. Donc l'arbre que je récolte maintenant a 150 ans et celui que le semis de cette année qui sera exploitable, récoltable dans 150 ans. Vous voyez, on travaille sur 3 siècles. Parce qu'une forêt, c'est ni plus ni moins qu'un jardin. Mais un jardin, vous semez au printemps, vous récoltez à l'automne. La forêt, vous faites exactement les mêmes opérations, mais sur plusieurs siècles. En 40 ans, un peu plus de 40 ans de présence, j'ai eu l'occasion de voir certaines parcelles évoluer, mais d'une manière fantastique. Vous ne pouvez pas imaginer... Le bonheur, je dis bien le bonheur qu'on ressent quand vous allez sur une parcelle qui avait été plantée en pin à l'époque de Fabre et de Flahault et que nous, maintenant, on coupe ces derniers pins et à la place, il y a une véritable forêt qui est arrivée par la nature. Vous avez de l'érable, vous avez du hêtre, vous avez un peu de chêne, vous avez du sapin, vous avez... Et là, vraiment, la partie est gagnée. Oui, c'est ça qui encourage. Et puis après, bon, de toute manière, je pense que ça ne se discute pas. Vous avez des passions, vous n'en avez pas. Si vous tentez d'être forestier parce que, bah oui, c'est bien, je me balade, je suis dans la nature et tout, laissez tomber. C'est pas ça le boulot de forestier. Il faut savoir intervenir, il faut savoir... quand vous voyez un bel arbre, vraiment de belles venues, c'est pas le moment de faire du sentimentalisme. C'est l'heure de la récolte. Vous n'avez jamais vu un vigneron, vous n'avez jamais vu un cultivateur devant sa vigne, devant son champ de blé, qui dit « Oh, mais c'est magnifique, je peux quand même pas le récolter. » C'est l'heure de la récolte, on récolte. En forêt, c'est la même chose. Mais ce qui heurte la sensibilité du public, c'est que, ah ben oui, mais, et ça je l'ai entendu il y a 15 jours, eh oui, mais vous nous dites qu'il faut 100, 150, voire 200 ou 300 ans pour faire un arbre, et ça ne vous fait rien de le couper. Eh non, non, on a travaillé pour ça. On ne va quand même pas attendre qu'il disparaisse. Parce que là où c'est vraiment une perte, vous travaillez pour avoir un bel arbre, et un jour... Il est arraché par le vent, il est foudroyé, il est bouffé par les insectes sans profit. Parce qu'il ne faut pas se voiler la face. On est là quand même pour gagner notre croûte.
Bah avec les bois qu'on a sur les Gouales, alors si on parle de prix, parce qu'on a différentes modalités de vente des bois, mais si on parle de prix du bois sur pied, donc c'est-à-dire quand on marque des coupes de bois, on les martèle, donc on marque les arbres qui vont être exploités, on en sort un volume qui est réparti par essence et par classe de diamètre, et en fait, on va donc vendre un lot de bois, donc ça va être par exemple, pour faire très simple, on va vendre 500 mètres cubes de hêtre, diamètre essentiellement 30 et 35 par exemple, et ça on va le mettre en vente publique. Et ben là ça va être un système d'enchères finalement, enfin de prix qui vont être proposés par les clients qui sont intéressés, donc ils peuvent être soit des scieries, soit des négociants en bois. Ils vont payer un certain prix pour ce volume de bois, et là ça va être à eux en fait de venir le couper, donc ils vont embaucher des bûcherons et des débardeurs pour couper les bois, les sortir de forêt et les amener jusqu'à leur scierie ou leur dépôt quoi. Et dans ce cas là, le bois qu'on vend sur pied, En gros, si on parle du être sur l'égual, on va le vendre entre, disons, 15 et 25 euros du mètre cube. Dans ce cas-là, c'est uniquement pour faire du bois de chauffage. Enfin, le seul débouché actuel du être sur l'égual, c'est pour faire du bois de chauffage. Et après, si on parle des résineux, donc des sapins et des épicéas, des pins aussi, qui vont faire davantage de bois d'œuvre, donc pour de la, soit faire des palettes, soit faire du bois de coffrage, soit faire du bois de charpente, on a des prix qui vont être un peu supérieurs et qui vont être compris entre 20 et 30 euros du mètre cube, quoi, à peu près. Un arbre, ben ça dépend combien de la taille qu'il fait, évidemment, mais un arbre, on va dire, de 30-35 de diamètre, il va faire un mètre cube. Et puis après, un arbre de 50 de diamètre, il va faire 2 mètres cubes. Et puis après, bon, ça va grossir beaucoup plus vite, quoi. Donc, en gros, si vous avez un être moyen de l'égual en face de vous, ça va coûter sur pied 20 euros, quoi. Donc, on est vraiment avec de la matière première. Enfin, on a des choses qui ne valent économiquement, financièrement, pas beaucoup, quoi. Et qui prennent évidemment après, par contre, forcément, ça prend de la. Le prix augmente au fur et à mesure du travail qui est fourni dessus, du transport et de la transformation, quoi, évidemment. Hein. Donc, c'est sûr que le prix du ster de hêtre qui va arriver chez vous sec, ce sera plus, forcément, plus nettement plus élevé. Et pareil pour les planches, par exemple, que vous pourrez acheter à la scierie, quoi. C'est ce qui se faisait en fait sur le massif jusqu'à il y a 10 ans. Enfin, on vendait toutes les coupes comme ça en bois sur pied, donc directement aux scieries ou aux négociants. Et maintenant, on a un autre mode de vente qui se développe depuis 5-10 ans et qui représente aujourd'hui la majeure partie en fait des exploitations qui sont faites sur les gouales. C'est ce qu'on appelle les bois façonnés. Et donc où là, l'ONF a des contrats directement avec des entreprises de travaux forestiers qui vont nous trier les bois et ensuite on va vendre des bois selon leur qualité directement à des acheteurs, quoi. Et donc ça se développe de plus en plus partout en France, dans toutes les forêts domaniales.
Quand je suis montée dans votre voiture de forestier, le sol était vraiment jonché, peut-être d'une trentaine de bombes.
Peut-être pas autant, mais au moins une vingtaine.
Ah oui.
Mais c'est-à-dire que ces bombes, jusqu'à il y a une dizaine d'années, quand nous vendions le bois, c'était ce qu'on appelle en bloc et sur pied. Autrement dit, on marquait les arbres et on estimait le volume et on vendait le bois comme ça, sur pied. Maintenant, on vend du bois façonné. C'est nous qui employons les bûcherons et les débardeurs. Et donc, ils font l'exploitation, mais le bois est trié. On vend le bois à un acheteur spécifique. Autrement dit, l'UFV à Cavaillac. Quand l'UFV achetait une coupe en bloc et sur pied, il y avait du sapin, il y avait de l'épicéa, il y avait du mélèze, mais il y avait du hêtre, etc. etc. Or, eux, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font de la charpente. Le hêtre, ils n'en faisaient rien. Les petits diamètres ne les intéressaient pas. Alors après, c'était tout un jeu. Ils appelaient Sucy à Soclière, qui fait de la palette. Roland, là, on a un lot de petits diamètres d'épicéa. On n'en a pas l'usage. Oui, envoyez. Moi, de mon côté, j'ai du très gros diamètre, si ça vous intéresse. Et donc, il y avait tout un jeu. Tandis que maintenant, quand l'UFV nous achète de la charpente, on l'amène sur place. Voilà, il y a telle pile de 4 mètres, de 4 mètres 50 à la demande du client, de tel diamètre. Et donc, quand il achète X mètres cubes de charpente, il n'a pas de perte. Parce qu'en plus, quand vous achetez un arbre sur pied, vous achetez un lièvre dans un sac qui vous dit que l'arbre n'est pas pourri. Donc, il va perdre 1 mètre, 2 mètres. Tandis que là, on vend le bois, évidemment, qui est apte à être scié. Donc, réponse à votre question, eh bien, on note d'une part le numéro de la pile, parce que, bon, du tas de bois, si vous préférez. D'ailleurs, vous avez ici, voilà, les numéros de pile, vous voyez, avec le volume. Donc, sur la pile, vous avez le numéro, vous avez la quantité de bois, et puis le destinataire. Sur un même chemin, vous trouvez du chauffage de très haute qualité, de la charpente, de la palette, de l'emballage, etc. etc. Donc quand les transporteurs arrivent, il n'y a pas que des hommes des bois. Le gars, il est là pour conduire son camion, il n'est pas là pour se poser des questions. Il s'agit qu'il embarque ce qu'il faut, qu'il ne prenne pas le bois du voisin. Et alors donc, on numérote suivant les qualités de couleurs différentes, etc. Voilà pourquoi il y a tout ce lot. Et on s'en sert tous les jours. Vous me direz, bon, ça pourrait être à l'arrière. Mais bon, je m'arrête, paf, j'attrape ça. Voilà. Ouais, c'est un véhicule hein, où on travaille. Hein, c'est
oui,
pas...
ça m'a frappé.
Le souci majeur qu'on a actuellement, c'est l'invasion d'insectes. Simplement, en sortant, je peux vous montrer en face, il y a une zone où tous les arbres sont rouges, ils sont en train ils sont crevés. Donc, il y a déjà ce problème d'insectes. Vous descendez du col de Faubel vers Camprieux, un peu avant ce qu'on appelle le pont du Groulier. Regardez à droite et à gauche, vous avez des cibles de sapins qui sont rouges. Mais alors, rouges comme ça. Hein. C'est un souci. Donc, comment voir l'avenir? Vous savez, on ne peut jamais parler sérieusement de l'avenir d'une forêt. Elle est tellement fragile, tellement menacée, on ne peut que s'adapter. Je reviens toujours à la même chose. C'est la nature qui nous guide. On va par là, ça va pas. On va par là et donc on peaufine nos connaissances. Mais comme la chanson de Jean Gabin, finalement, on sait qu'on ne sait rien. Il faut prendre le temps et avoir encore une fois l'humilité de dire « j'ai une idée, on va essayer sur une petite surface, dans un petit lieu donné, on va voir ce que ça va donner et que peut-être à ce moment-là, on pourra agrandir, sachant que ce qui marche là peut complètement péricliter de l'autre côté. » Ça aussi, personne ne s'en rend compte. Et je peux vous montrer quelque chose là. Vous expliquez, preuve à l'appui, vous allez être d'accord avec moi. On va faire 50 mètres, je vais vous dire exactement le contraire. Preuve à l'appui, vous serez toujours d'accord avec. C'est ça aussi la forêt, vous ne pouvez pas généraliser. Ce qui marche, encore une fois, je me répète, là, ne marche pas à côté.
La nuit, il se réveille et... Les arbres, voilà, et ils fleurissent pendant la nuit et nous, on les voit pas. Eh bien, parce que le jour, ils veulent pas que les hommes, les êtres vivants, quoi, ils voient qu'ils poussent. Du coup, c'est le soir, à moins, personne ne peut le voir et ils poussent tranquillement.
Il y aurait peut-être des arbres invisibles qui sont dans une grotte pour pas que... Que par exemple, il y a des personnes qui coupent l'arbre, qui vivent le plus possible.
Et aussi peut-être parce que l'arbre, il peut être mort et il ne bouge pas, mais peut-être que son âme, elle s'est enfuie de son corps. Lui ne sera pas mort. Il n'y aura que son âme qui sera envolée. Donc, il n'y aura que son corps de l'arbre qui sera mort. Il pourra loger en d'autres corps d'arbres.
Ben, moi, je pense qu'il rêverait d'être immourable et intouchable. Parce qu'au moins, il peut vivre tout le temps. Et au moins, ben, il peut voir les enfants s'amuser dans la forêt. Voilà.
J'ai commencé à couper du bois à la hache. Passe partout. C'était pas facile. J'ai connu la première tronçonneuse, c'est mon père qui l'a achetée. Elle avait commandé à Paris. C'est une jobue. Quand mon père l'a mis en route, on était dans une maison où elle était en étage, quoi. On était sur la terrasse et mon père était en train de la préparer. Et la tronçonneuse a démarré. Ma mère a dit simplement, Pierrot, lève-toi de là, ça va exploser cette affaire. Et après, bon, on s'est adapté à la tronçonneuse et ça a évolué comme ça. Ça a changé un petit peu le... Parce que la hache, c'est bien, mais j'ai pas oublié le coup de la hache. C'était bien, quoi. Les concours de bûches, le ronage, tout ça, ça m'a bien servi. Par la suite, il y a eu les tracteurs, parce que j'ai débardé avec un cheval. Moi, les chevaux, c'est bon pour y monter dessus, mais débardé avec ça, moi, j'en avais peur. Et on avait un cheval qui était vraiment magnifique, mais j'avais l'appréhension, quoi. Et quand il est arrivé le tracteur, on a laissé tomber le cheval, parce que c'était... Le cheval, il faisait un pas, moi aussi je faisais un pas, et toute la journée, on courait. C'est-à-dire que les peaux du ventre, il n'y avait pas... C'était nickel, quoi. On était en forme. C'est un métier où tu travailles au SMIC. Tu ne peux pas faire autrement. Vous gagnez, bon, on essaie de gagner la vie. Mais on le transpirait. On travaillait pour manger. Mais en plus, on le transpirait, ce terre-chaîne. Ah, c'était physique, quoi. Même maintenant, hein. Bon, mes frangins, ils coupaient du bois. Moi, j'étais avec le tracteur. Tirais le câble, monte d'abord, là. Je courais. Ah, j'étais informé, là. Puis, il y a la technologie qui est arrivée, la radiocommande pour commander à distance. Ça commence à soulager un peu. Mais bon, parce qu'on est au rendez-vous. On a eu des époques où il y avait du bois coupé énormément. On a couflé notre chiffre d'affaires. Et en définitive, on n'était pas plus avancé parce qu'il a fallu le donner à l'État. Ce qu'on gagnait en plus. Ce qu'on transpirait en plus. Parce qu'on a transpiré notre gain. Quand tu le gagnes, c'est facile. Ouais. Bon, on t'en demande. T'en donne. Mais quand tu l'as transpiré. Moi, j'ai connu l'époque où on travaillait pour la Sauf-Ouest pendant 10 ans. Mon père, il n'avait pas de voiture, on se déplaçait à pied. Mais on était trois, il y avait un salaire correct qui tombait, à trois. Et mon frère, ouais, et mon père et moi. On crevait la dalle. On était des esclaves. Quand tu parles des gardes, là, l'ONF, à cette époque-là, ça je le dis haut et fort, ils nous obligeaient à la forêt, on coupait un arbre, on débranchait l'arbre, on l'écorçait bien sûr, il fallait empiler les branches à la main. Un tas, il fallait faire un taron, c'est un truc de fou, un truc d'esclave. Ils n'ont pas été corrects avec nous. Ils ne se rendaient pas compte qu'on a... Et c'était fait gratuitement, ça, c'était un plus. Pourtant, l'ONF nous a fait vivre. Hein. C'est grâce à l'ONF qu'on a, je peux le dire, j'en ai parlé à un responsable de l'ONF, et quand même, c'est grâce à vous qu'on est resté à la montagne, au pays, que ce soit de la mec de la Nijol, de Campouilleux, de partout. Ouais. Ah oui, nous, c'est une passion. Une passion, c'est comme ça. Nous, on a cru qu'on était les derniers des Mohicans, en définitive, il y a des jeunes. C'est un métier noble, soi-disant. Enfin bon, mais c'est rude. Mais c'est un métier, nous, on a... C'est une passion, quoi. Écoute, je vais te dire, après, on a eu la station de ski qui nous a sauvés un peu. Mais après, au printemps, on a guissé de rentrer dans les bois. Et pourtant, forcément, au téléski, tout ça, on avait la journée qui tombait tranquille. Je sais pas, c'était... C'est comme ça, c'est dans la... C'est une passion. Avec les arbres, bon, abattre les arbres, c'est sûr. Les arbres, bon, on peut pas dire que c'était du plaisir, mais le bon moment, c'est quand tu fais l'approche, quoi, à l'arbre. Et bien, quand tu arrives, quand tu commences à regarder, tu mets au pied, tu regardes, tu observes comment ils pêchent, parce que c'est technique, ça. Et après, bon, quand tu commences avec la tronçonneuse, c'est la tronçonneuse surtout qui est importante, qui est un bon affûtage. Les anciens, ils coupaient une sève descendante pour faire de la charpente. On était un peu surpris parce qu'on ne cherchait pas à comprendre. Ça arrivait là-bas au sillage et pouf, ça, c'est où pas sève, ça. C'est le monde dernier qui a voulu que... Mais une époque, je sais qu'il y avait la lune, il y avait les anciens, je n'ai jamais entendu dire, même, ils faisaient attention, quoi, pour faire de la charpente, bien sûr.
Avec un garde qui était un peu fou, qui aimait beaucoup la pêche à la truite. J'ai bossé à débusquer, donc sortir du bois coupé ou du bois mort des lits de rivière pour organiser des frayères pour les truites pour qu'elles puissent se reproduire de manière efficace. Donc ça, j'ai fait ça pendant deux hivers de suite. Où j'étais avec une équipe de bûcherons de l'ONF et on a nettoyé des bords de rivière dans la vallée de Seix. C'est sous les Gouales, là, sous Cabriac, en travers de Côte et Cabriac, pour faire simple. Alors je faisais ça, ils abattaient les arbres, je les sortais du lit de la rivière, ils finissaient de les ébrancher, je les sortais avec un cheval, hein, évidemment, pour pas mettre d'huile, pour vraiment faire le travail propre pour que les truites puissent se reproduire dans la même année, quoi. Les bûcherons étaient équipés d'huile spécifique pour leur tronçonneuse, pour vraiment pas abîmer l'écosystème. Voilà. J'ai fait ça pendant deux ans, deux hivers de suite. C'est un peu raide, hein, il fallait être jeune. Hein. Le cheval, je l'avais dressé pour ça, j'avais déjà fait pas mal de chantiers, j'avais longtemps bossé pour des maraîchers, j'avais fait quelques maraîchages, j'avais fait un gros chantier sur une propriété forestière privée, où je débardais du bois complètement en descente. Mais je l'ai dressé pendant... Bon, il s'est dressé plus ou moins tout seul, mais il avait le goût, quoi. Donc même avec la tronçonneuse dans les pattes, quand il était coincé, il attendait que la tronçonneuse fonctionne, tronçonne le truc, et puis une fois que j'en disais « Allez, on y va », il y allait. Il aimait ça. Il se cabrait et tout quand ça venait pas, il me cassait les chaînes, il faisait tout. Non, c'est très enrichissant, très physique, évidemment, très 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 physique, mais très enrichissant.
Le débuscage à cheval, bah c'est quelque chose qui se pratique pas spécialement sur les Gouales aujourd'hui. Bah simplement en fait parce que avec les pentes qu'on a, on est quand même dans une zone de montagne et donc il y a eu des expérimentations, au moins une il y a pas mal d'années sur l'Or de Dieu. Et la jument, je crois qu'elle avait arrêté au bout de quelques jours parce que c'était vraiment trop physique pour elle. Par contre, ça pourrait se faire dans des cas très particuliers. Je pense notamment sur des zones humides, des zones de tourbières qui sont là plus plates et où il pourrait y avoir les bois qui soient extraits de ces zones, des alentours immédiats de la tourbière, mis un petit peu plus loin et puis après récupérés par des tracteurs de débardage classiques. Donc ça pourrait être envisagé sur les Gouales, mais vraiment sur des cas particuliers et plutôt à plat pour ménager les chevaux. Les machines qui viennent en forêt, classiquement, c'était des tracteurs de débardage, donc des gros tracteurs avec des câbles, en fait, les câbles qui s'enroulent et donc qui ramènent les troncs et qui permettent donc de sortir les troncs des parcelles. Donc il faut imaginer des très gros tracteurs, quoi, on va dire. Et maintenant, de plus en plus, ce qu'on voit en forêt, c'est des abatteuses. Et donc les abatteuses, c'est des espèces de grosses machines avec qui manœuvrent, qui sont assez grosses, mais quand même assez manœuvrantes en forêt. Et l'idée, c'est qu'il y a des bras articulés qui arrivent au pied de l'arbre avec des lames de tronçonneuse en fait qui sont montées sur le bout du bras articulé. Et donc l'arbre est abattu directement par la machine, est branché par la machine et découpé en billons, donc en morceaux de bois de longueur prédéfinie, quoi, en fonction des besoins des clients en fait, donc ils sont tronçonnés directement en forêt et ensuite ces billons, donc ces morceaux de bois sont récupérés par des porteurs, donc qui sont aussi des grosses machines avec une pince en fait et qui empilent des billons sur une remorque quoi finalement, et ça permet d'avoir des rendements évidemment plus importants que des bûcherons manuels. Et puis par ailleurs, enfin c'est vrai qu'il y a de moins en moins de vocations pour être bûcheron manuel. Et donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entreprises de travaux forestiers qui se sont équipées avec ces grosses machines, les abatteuses et les porteurs. Ce qui peut faire un peu peur au départ. Après, quand c'est bien fait, donc c'est-à-dire notamment quand les machines utilisent toujours les mêmes cheminements dans les parcelles, donc ce qu'on appelle des cloisonnements d'exploitation, ça permet que la pression sur le sol, parce que c'est clair que c'est des grosses machines qui ont une pression importante sur le sol, elle soit toujours exercée sur les mêmes endroits et que par contre le reste de la forêt ne soit pas touché par ces impacts sur le sol, quoi. Ce qui est intéressant avec ce dispositif de martelloscope, en fait, c'est que ça permet de mettre les élèves ou les visiteurs adultes en situation de gestionnaire forestier. On leur demande de faire notre travail et de remplir un certain nombre d'objectifs, quoi. Donc à la fois de produire, donc de couper des arbres, on les oblige finalement à couper virtuellement des arbres, ce qu'ils peuvent avoir du mal à faire naturellement, et puis à faire attention aux enjeux de biodiversité, à faire attention au renouvellement de la forêt. Et en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est quand les élèves, les étudiants ou les visiteurs, ils sont vraiment en situation d'avoir ces multiples enjeux à gérer, quoi, en fait. Et de se dire que, d'une part, la gestion forestière, c'est pas si simple que ça. Et puis, qu'il faut intégrer différentes choses et qu'on va pas parler simplement de la protection de la faune et de la flore, mais il y a aussi l'enjeu de production. Donc, on va essayer d'exploiter et de sortir un certain volume de bois tout en préservant le reste. Enfin, voilà. C'est essayer de montrer vraiment qu'il y a tout ce travail qui est assez complexe de gestion forestière. Et ça permet notamment de sortir un petit peu de ce qu'on entend souvent de la gestion forestière par un public qui connaît pas spécialement. Souvent on nous dit de toute façon vous faites des coupes rases et puis après vous plantez, mais en fait ici en forêt de l'Aigual on fait pas comme ça que ça marche du tout. Enfin exceptionnellement il y a des plantations, mais c'est vraiment très à la marge, et la très grande majorité du temps, en fait, on travaille avec la régénération naturelle, avec les petits arbres qui viennent, et c'est vraiment le travail ensuite, ça va être de doser la lumière, de prélever des grands arbres, ça va permettre de faire de la lumière pour les petits qui se développent, et tout ça en respectant aussi tout ce qui est enjeu de biodiversité, pour lesquels on a des échanges très réguliers avec le parc national des Cévennes, quoi. Donc c'est essayer de montrer, voilà, toute cette complexité et que les personnes soient actrices, quoi, et donc se rendre compte que voilà, il y a plein de choses à essayer d'intégrer et qu'on n'est pas du tout sur des choses toutes simplistes, quoi. Voilà, le martelloscope, c'est vraiment quelque chose qui permet d'être au contact du public et de vraiment parler de gestion forestière, parce que sinon c'est vrai que moi ça m'arrive régulièrement de faire des animations, mais ça va plus être pour aller voir des sites, plus du patrimoine historique ou etc. forestier aussi, mais pour vraiment rentrer dans qu'est-ce que c'est que la gestion forestière, comment ça marche, comment on exploite les bois, etc. Ben c'est bien de s'y frotter un peu, de se confronter aux questions qui peuvent se poser. La pression des cervidés, souvent les cervidés ont toujours une bonne image, etc. dans le grand public, mais n'empêche qu'ils bouffent nos petits plants de sapin. Et c'est bien d'être en forêt pour le montrer, quoi, simplement pour voir que dans certaines situations, il y a des déséquilibres. Et que dans ces cas-là, il faut essayer de rétablir un certain équilibre si on veut que la forêt puisse se renouveler correctement, quoi. Je pense qu'on a plutôt une bonne cote de popularité en général, à l'ONF en tout cas. Après, c'est vrai que tout ce qui est exploitation forestière, oui, je pense qu'il y a une connotation négative, le fait de couper des arbres, etc. Nous, je crois qu'on a encore la casquette des gardiens, protecteurs des forêts, quoi. Donc je pense qu'on a encore cette bonne cote de popularité, après à nous aussi de la garder en faisant du bon travail. On a aussi sur les Gouales un enjeu important en termes d'équilibre agro-sylvo-cynégétique. C'est un terme un peu barbare. C'est l'équilibre, en gros, agriculture, forêt, chasse. Pour faire simple, on peut dire aussi équilibre forêt-gibier. Ce qu'on ne sait pas toujours, mais les populations de gibier, notamment de grands gibiers, et notamment de cervidés, cerfs et chevreuils, ont des impacts sur la forêt et notamment la régénération forestière. Quand un peuplement, quand une parcelle est en cours de régénération, que les arbres sont petits, ben ils se font croquer par les cerfs et les chevreuils, notamment. Et ben ça, s'il y a des populations trop importantes de cervidés, ça peut entraîner un blocage de la régénération ou une dévalorisation de la valeur du peuplement. Voilà, ça a tout un tas d'impacts en tout cas sur... Et comme je le disais tout à l'heure, donc on a une fonction économique, donc à partir du moment où on a une pression sur la régénération, ça impacte aussi cette fonction économique. Donc voilà, et sur les Gouales, on est sur un des noyaux dans lesquels le cerf a été réintroduit dans les années 60-70, un des premiers centres de réintroduction, et donc on a des populations qui, depuis la réintroduction, ont augmenté, d'abord progressivement, puis rapidement, et aujourd'hui on a des niveaux de population qui sont assez élevés, avec des forestiers et des agriculteurs qui nous alertent sur des niveaux de pression importants, à la fois sur les forêts mais aussi sur les prairies. Si vous voyez des agriculteurs à Merveille, ils vous diront qu'au printemps, ils ont régulièrement plusieurs dizaines de bêtes dans les prairies, donc avec des pertes de production qui vont avec. Et notre outil de régulation principal, de régulation de ces populations, c'est la chasse. On a la particularité d'avoir un cœur de parc national qui est chassé. La réglementation de la chasse est fixée dans le cœur du parc par le conseil d'administration du parc. Et donc voilà, on essaye de gérer la chasse de façon à atteindre au mieux cet équilibre entre les niveaux de population de la grande faune et une production forestière, un maintien du couvert forestier, un maintien d'une diversité forestière. On retrouve le volet réglementaire, c'est-à-dire que le conseil d'administration du parc définit chaque année les règles de chasse. Donc les périodes de chasse, les espèces chassables et ce qu'on appelle les plans de chasse, donc les quotas d'animaux, cerfs, chevreuils et mouflons chassables, avec un minimum, un maximum. Donc ça c'est pareil, c'est toujours le levier réglementaire, mais encore une fois le levier réglementaire ne vient pas seul. C'est pas le parc qui va dire cette année on va chasser autant d'animaux et puis c'est tout. C'est quelque chose qui se fait évidemment en dialogue avec tout le monde, donc en premier lieu bien sûr les chasseurs, et on associe évidemment aux discussions les forestiers et les agriculteurs notamment, plus les services de l'État, les Et tout ça, ça se fait pas non plus, on va dire, au doigt mouillé. C'est pas juste une négociation, une discussion, et puis on se met d'accord. Et on se base sur des suivis, en fait. Et donc là aussi, on a mis en place avec les différents partenaires, forestiers, chasseurs, des suivis de façon à avoir des données sur lesquelles se baser pour savoir si les populations sont plutôt en augmentation, stabilisation, régression, si les dégâts sont importants, moyens, faibles, pour pouvoir ajuster chaque année et sur le long terme les plans de chasse de ces animaux de façon à essayer d'atteindre ce fameux équilibre. L'égual fait partie clairement des points chauds en termes d'équilibre agro-sylvo-cynégétique. Ça fait partie des massifs, si ce n'est le massif, sur lequel il y a le plus de problèmes encore par rapport à ça, et les discussions sont les plus animées chaque printemps en termes d'équilibre agro-sylvo-cynégétique. Les plans de chasse ont été beaucoup augmentés ces dernières années, donc on est à des niveaux de prélèvement d'animaux chassés assez importants. Les chasseurs nous disent en général qu'ils sont à leur capacité maximale de ce qu'ils sont capables de chasser, mais les forestiers trouvent qu'il y a encore aujourd'hui beaucoup de dégâts, et c'est avéré. Alors après, l'augmentation de ces dernières années, les plans de chasse va porter ses... On espère qu'elles vont porter ses fruits, qu'elles portent déjà leurs fruits, mais ça se fait forcément un peu sur le long terme. La réponse n'est pas immédiate. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a des dégâts forestiers, il y a des enjeux de production forestière, il y a des gros plans de chasse, et des chasseurs qui nous disent qu'ils ont du mal à chasser plus. Plus aussi, comme je le disais tout à l'heure, des agriculteurs qui trouvent aussi qu'il y a trop de dégâts dans les prairies au printemps. Donc ça fait, voilà, l'égual fait vraiment partie de ces points chauds en termes d'équilibre agro-sylvo-cynégétique. Aujourd'hui, on n'y est pas vraiment. Enfin, l'objectif, il est quand même encore de réduire les populations de cervidés de façon à retrouver un équilibre et à faciliter un peu la régénération forestière. Alors, on espère que les plans de chasse élevés de ces dernières années vont améliorer le problème.
Normalement, une forêt est très très paisible. Après, à part... Il faut qu'il y en ait pour tout le monde, mais à part les chasseurs. Mais les chasseurs ne sont pas des mangeurs de forêt. Hein. Ils sont, mangeurs de forêt qui veulent s'accaparer la forêt, que c'est que pour eux. C'est pas vrai, ils sont là pour régulariser les bêtes sauvages et tout. On en a besoin. Il y en a qui font pas attention, les mangeurs de forêt, c'est des touristes qui jettent des bouteilles d'eau, qui jettent du plastique, qui jettent pas mal de choses.
On a la chance d'avoir une forêt qui est diversifiée, et donc ça, on sait que c'est notre meilleur atout hein, pour la résistance et la résilience face au changement climatique. On a une forêt aussi qui, mine de rien, ça c'est un avantage, mais le fait qu'on soit sur des montagnes, ça fait que les forêts du bas vont subir en premier les effets du changement climatique, et donc on aura le temps, entre guillemets, de voir ce qui se passe en bas pour anticiper ce qui se passe en haut. Donc ça se fait plus progressivement qu'en plaine, où quand ça meurt tout d'un coup. Pour l'instant, les forêts tiennent bon, et puis on a bon espoir en travaillant à une gestion forestière qui va construire des forêts en bon état de conservation, des forêts riches, diversifiées, avec de la faune, des sols préservés, voilà, une diversité d'espèces. On a espoir de réussir à construire des forêts plus résistantes et plus résilientes. C'est quand même, voilà, des forêts... diversifiées en bon état de conservation seront forcément plus résistantes que des forêts monospécifiques issues d'une plantation avec une seule espèce d'arbres issus de pépinières. Quoi. Les forêts ne vont pas si mal, et pourvu que ça dure.
Vous venez d'écouter les quatrièmes déclarations d'égual, déclarations de revenus des revenants. Merci aux enfants des écoles publiques de Trèves, Camprieux, La Nuéjolle et à leurs enseignantes. Merci à Céline Pialot, artiste, à Baptiste Algouette, responsable du pôle forêt-chasse au Parc national des Cévennes, à Bernard Piercot, technicien forestier à l'ONF, à Valère Marsaudon, ingénieur forestier à l'ONF et photographe naturaliste, à Pierrot Pialot, dit Caillou, bûcheron à la retraite et Cévenol Réboussier, à Vincent Cosse, paysan fromager, à Alain Martias, retraité, résident des Ormeaux de La Nuéjolle. Ces déclarations d'égual, glanées d'octobre 2023 à juin 2025, sont une commande de la filature du Mazel, pôle d'innovation territoriale, soutenu par la DRAC Occitanie, le département du Gard, la communauté de communes Cosse-Aigoual-Cévennes Terre Solidaire et la fondation Carasso. En partenariat avec le studio Raw Power Records et Radio Larzac. Une création de Clémentine Magéra, conteuse et autrice illustratrice, avec le concours aérien des oiseaux de l'Aigoual. Pic noir, chouette de Tegmalm, chouette chevêche, mésange noir, citelle, troglodyte mignon, grimpereau des bois, pinson des arbres, roitelet huppé, rouge-gorge, qui illumine ce bosquet de podcasts.